transmettre la mémoire de la Shoah.
Être et savoir, Louise Touret.
À l'occasion du centenaire de la naissance de Primo Levi, écrivain, chimiste et surtout témoin majeur de la Shoah, France Culture a diffusé et rediffusé plusieurs magnifiques émissions consacrées donc à cet auteur. Et nous avons voulu, dans Être et savoir, nous emparer à notre tour du sujet. Parce que c'est un sujet d'éducation. Transmettre la mémoire de la Shoah. Et des questions se posent aujourd'hui, sont très actuelles. Les enseignants se les posent et peut-être vous vous les posez aussi sur comment en parler à des enfants et à des adolescents. Primo Levi était animé d'une volonté acharnée de faire savoir, j'emprunte cette formule à Georges Samprin, mais comment faire connaître l'histoire du génocide juif, comment transmettre aux jeunes générations la mémoire des génocides du XXe siècle et surtout comment s'assurer que les enfants et adolescents comprennent ce qui a pu les rendre possibles. En lisant Primo Levi, par exemple, et nous nous poserons la question de la place de la littérature dans cet enseignement et dans cette transmission de la mémoire, en enseignant, en classe, bien entendu, et puis en combattant l'indifférence et l'oubli que dénonçait l'auteur de Si c'est un homme dès la parution de l'ouvrage en 1947. Indifférence et oubli qu'il a combattu toute sa vie. Et combattre l'indifférence, c'est à la fois évoquer l'histoire et parler d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vous entendrez pourquoi avec nos invités. La leçon de choses avec Philippe Tretiak, il parle de Arnis, une marque que vous connaissez peut-être, parce que c'était la marque des costumes qui avait été offerte à François Fillon. Le journaliste et auteur a raconté l'histoire des propriétaires d'Arnis dans son livre « Arnis et moi », c'est une famille qui a fui les pogroms. Et le coup de maître de Philippe Tretiak, c'est de mettre en regard le success story de la famille Grimbert avec l'histoire de sa propre famille qui, après les horreurs de la guerre, a elle plutôt échoué que réussi dans le commerce. Un échec qui lui a beaucoup appris. C'est la leçon de choses de Sophie Bobert et c'est en fin d'émission. Merci à Jacques Hubert qui est à la prise de son aujourd'hui. Un grand merci à Lucie Riandet qui a tourné le reportage que vous allez entendre au cours de ce programme. Merci à Avril Ventura, notre collaboratrice spécialisée selon la formule consacrée, et à Philippe Baudouin, réalisateur. Il fabrique cette émission avec moi. Et pour parler de Primo Levi et de la transmission de la mémoire de la Shoah, trois invités avec nous aujourd'hui. Alain Chouraki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, président de la Fondation du Camp des Mille. Vous avez dirigé un ouvrage collectif pour résister à l'engrenage des extrémismes, des racismes et de l'antisémitisme. C'était publié en 2015 au Cherche Midi. Tout d'abord, je voulais vous demander pour nos auditeurs de préciser ce qu'est le Camp des Mille. Aujourd'hui, on sait que ça a été un camp pendant la guerre, donc près de Marseille, où étaient regroupés des étrangers.
Oui, le camp des Mille est aujourd'hui un site mémorial sur le camp d'époque, qui effectivement a été ouvert, c'est intéressant je trouve, par la République en 1939 pour les étrangers suspects. Et puis Pétain s'en est saisi, et son régime, et lui ne s'est pas trompé, parce que dans les étrangers qui avaient été internés, la plupart étaient des amis de la France, des antifascistes, mais on les avait internés comme suspects. Et puis, donc Pétain ne s'est pas trompé, les a gardés, on a interné d'autres entre 39 et 42, et puis en 42, ça a été la déportation des hommes, femmes et enfants juifs vers Auschwitz. Et nous avons, avec d'anciens résistants et déportés, lutté, je dois dire, pendant une trentaine d'années, de façon assez rude, pour que ce lieu ouvre. C'est aujourd'hui l'un des seuls grands camps d'internement et de déportation encore intact en Europe. Nous avons à peu près plus de 120 000 personnes par an, dont plus de 68 000 élèves, enfin jeunes en général, parce que c'est l'enseignement formel et l'enseignement informel, et puis des formations formation auprès de magistrats, de policiers, on y reviendra peut-être, de toutes sortes de jeunes, de sportifs, jeunes de tout, dans toutes les activités. Et à partir de cette histoire, cette histoire du camp d'Émile, cette histoire de la Shoah, nous avons une approche à la fois pluridisciplinaire, donc pas seulement historique, pluridisciplinaire et intergénocidaire, qui permet de repérer les mécanismes fondamentaux qui ont pu conduire à ces différents crimes et les mécanismes, les processus qui permettent de résister. Et sur ces deux terrains, le travail scientifique que nous avons eu le temps de faire pendant les 30 ans de bagarre nous a permis de repérer quelques invariants qui sont des clés de compréhension du présent.
Et vous nous expliquerez lesquels ? Tout à l'heure, on va tout de suite saluer les autres invités de cette émission. Clément Bouchereau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres et d'histoire-géographie en lycée professionnel à Taverny, c'est dans le Val d'Oise. Parce qu'en lycée professionnel, on enseigne souvent deux matières à la fois, donc c'est et l'histoire et les lettres. Ce qui va peut-être nous intéresser pour parler de Primo Levi. Norbert Tcherny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également enseignant, enfin vous avez quitté l'enseignement il y a très peu de temps. En juillet, vous enseignez les lettres en collège, vous êtes également critique pour le journal littéraire En attendant Nadeau, et vous animez des ateliers dans un autre lieu de mémoire, le Mémorial de la Shoah. Vous avez également publié plusieurs ouvrages, le journal d'Hélène Baer, 1942-1944, c'était chez Talendier en 2011, et Les Valises, qui étaient rééditées en 2015 chez Phoenix. Nous parlons sur la chaîne de Primo Levi cette semaine et on a pu entendre des lectures, elles sont absolument magnifiques. C'est Gwenaëlle Aubry qui est philosophe, qui à la demande de Blandine Masson a lu des passages de Si c'est un homme. Je vous propose d'écouter un extrait de ces lectures.
Depuis le matin avant l'aube jusqu'à la distribution de la soupe du soir, ils devront tenir les muscles raidis en permanence. Danser d'un pied sur l'autre, enfouir leurs mains sous leurs aisselles pour résister au froid. Ils devront dépenser une partie de leur pain pour se procurer des gants et perdre des heures de sommeil pour les réparer quand ils seront décousus. Comme on ne pourra plus manger en plein air, il nous faudra prendre nos repas dans la baraque, debout, sans pouvoir nous appuyer aux couchettes, puisque c'est interdit, dans un espace respectif de quelques centimètres carrés de plancher. Les blessures de nos mains se rouvriront, et pour obtenir un pansement, il faudra chaque soir faire la queue pendant des heures, debout, dans la neige et le vent. De même que ce que nous appelons faim ne correspond en rien à la sensation qu'on peut avoir quand on a sauté un repas. De même, notre façon d'avoir froid mériterait un nom particulier. Nous disons faim, nous disons fatigue, peur et douleur, nous disons hiver, et en disant cela, nous disons autre chose, des choses que ne peuvent exprimer les mots libres, créés par et pour des hommes libres qui vivent dans leur maison et connaissent la joie et la peine. Si les lagueurs avaient duré plus longtemps, ils auraient donné le jour à un langage d'une âpreté nouvelle. Celui qui nous manque, pour expliquer ce que c'est que peiner tout le jour dans le vent, à une température au-dessous de zéro, avec pour tout vêtement une chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la conscience que la faim est proche.
Gwenaëlle Aubry, philosophe et romancière, qui lit un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi. Cet extrait me semble extrêmement important, car elle dit bien... Gwenaëlle Aubry, elle appuie bien sur le sens des mots qui se perd devant un drame et devant quelque chose d'inhumain. Et pourtant, on doit bien les utiliser, ces mots, tous les mots, pour essayer de transmettre et de faire comprendre ce qui a pu être une réalité. Norbert Tcherny, vous qui écrivez aussi, vous qui étiez enseignant en lettres, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors c'est très curieux parce que c'était exactement le passage que j'avais relu aujourd'hui, enfin un des passages que j'avais relu, et si vous m'aviez demandé spontanément quel passage de Primo Levi je choisissais, c'était celui-là, et en particulier la partie sur le changement de sens des mots, c'est-à-dire que ces mots-là, très concrets, faim, froid, Ce sont des mots que nous employons tous les jours et qui, en effet, à un moment, prennent un relief tout à fait particulier. Et je crois que c'est la première façon d'appréhender les choses, je crois, c'est-à-dire de rendre le pouvoir aux mots, de dire exactement ce qu'est une réalité et de la rendre sensible à des enfants, adolescents. Alors, que ça soit dans les ateliers du Mémorial de la Shoah ou dans mon travail de professeur, quand j'enseignais, j'insiste beaucoup sur la dimension physique, sensible, concrète des choses. On sera peut-être amené à reparler de mon atelier un peu plus tard, mais je vais prendre un exemple, puisque mon atelier part de Dora Bruder, le texte de Patrick Modiano, qui est un peu mon livre de chevet, enfin un de mes livres de chevet.
Qui est un texte magnifique.
Et donc, à un moment, il décrit le pensionnat du 5 heures de Marie où vivait grâce auquel aurait pu survivre Dora Bruder. Et à un moment, il propose une énumération pour expliquer ce que c'est que le rythme de la journée. Il commence par dortoir, chapelle, réfectoire, cours de récréation, salle de classe, chapelle, dortoir. Et donc, je demande aux élèves que j'ai face à moi, qui sont des collégiens ou des lycéens, de me dire ce qui les frappe dans cet ensemble. Alors, du point de vue grammatical, hélas, ils ne remarquent pas que ce sont des phrases faites d'un seul mot, des phrases nominales. Ce qu'ils remarquent, en revanche, c'est que ça commence et que ça se termine par dortoir. Mais je leur demande concrètement ce que ça signifie dans une période de pénurie, de souffrance, que de vivre dans un tel lieu. Alors certes, c'est un dortoir, et comme je leur dis, c'est un endroit qui aurait pu sauver Dora Bruder si elle y était restée, si elle n'avait pas eu le désir et si elle n'avait pas fugué, elle aurait peut-être survécu. Beaucoup d'enfants ont survécu dans des couvents, dans des institutions religieuses, et le mur des justes à la sortie du mémorial le rappelle. Je m'attache beaucoup à cette dimension très 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 concrète, parce que je pense que c'est le premier moyen de capter leur attention.
Avec les mots de la littérature, est-ce qu'on peut lire Primo Levi ? Est-ce qu'on le lit à l'école ?
Ah oui, tout à fait. D'abord, il est dans les programmes, et il est dans la plupart des manuels scolaires. Il y a des passages de Primo Levi parce que dans les programmes, vous avez pas mal d'entrées en troisième, en classe de troisième, autour du témoignage. Donc, on le lit en classe de troisième. On le lit en relation aussi avec le programme d'histoire, parce que comme les professeurs d'histoire étudient la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, et le régime de Vichy, les élèves connaissent cette période-là. Donc, ça a une résonance particulière. Et on lit des extraits de Primo Levi, oui, bien sûr. On peut le lire en entier aussi, hein.
Oui, et on peut lire, si c'est un homme, on peut lire aussi d'autres ouvrages tels que Le système périodique, qui est mon ouvrage préféré de Primo Levi. Je pense qu'on peut le lire assez jeune. Il évoque aussi, bien sûr, dans cet ouvrage, l'expérience de la déportation, même si c'est un peu d'une autre manière. Clément Bouchereau, que faites-vous lire à vos élèves? Quel texte choisissez-vous? Quel type de texte? Est-ce que la littérature peut aider?
Bien entendu, pour contextualiser, déjà, il faut peut-être rappeler qu'en lycée professionnel, on a des élèves qui arrivent souvent avec un parcours scolaire un peu chaotique, qui n'ont plus l'habitude souvent de la lecture et de la lecture d'œuvres longues. Et justement, mon rôle en tant qu'enseignant, il est de leur redonner ce goût-là. Et j'ai dû faire des choix, parce que évidemment la bibliographie en matière de littérature sur la Shoah est immense. Et d'abord, le premier rôle en tant qu'enseignant, c'est de choisir. Et là, j'ai fait des choix cette année, en ayant un peu attendu de voir un petit peu qui étaient mes élèves pour le nouveau projet sur lequel je me lance. Et j'ai choisi, pour exemple, Retour à Birkenau de Ginette Kolinka. Mais aussi le journal de Rutka, qui est un journal intime peu connu, beaucoup moins connu que le journal d'Anne Frank, plus court. Mais dans les deux cas, ce qui m'intéressait, c'était justement la longueur, qui était plutôt courte et qui allait bien à mes élèves. Et j'ai vraiment hâte de commencer, c'est la semaine prochaine, la lecture de ces livres. Peut-être que je pourrais en parler tout à l'heure, hein, mais qui, pour moi, dans mon rôle d'enseignant, font suite à un travail d'histoire qu'on a mené avec les élèves.
Un travail d'histoire, on va en parler tout de suite, justement consacré à la transmission de la mémoire du génocide juif. Alors, je ne sais pas quel mot, d'ailleurs, vous utilisez, vous, avec vos élèves. Pourquoi, en lycée professionnel, avez-vous décidé de mener précisément ce travail-là ?
Cette question, je me la pose souvent. Elle m'est venue, finalement, parce que moi-même, en tant qu'enseignant, j'ai réalisé que j'avais un manque. J'ai réalisé que j'avais été très peu formé à l'université sur cette question-là, et je suis donc tout simplement allé me former au Mémorial de la Shoah, qui propose, on peut déjà le dire, puisqu'on risque d'en reparler de ce lieu-là, mais qui propose pour les enseignants des formations de très très grande qualité. Et c'est après avoir vécu ces formations que je me suis dit, mais mes élèves, eux aussi, ont le droit de fouler ces lieux-là, que sont le mémorial de Paris et de Drancy. Ils ont le droit, eux aussi, d'avoir leur part dans la construction de cette histoire de la Shoah. Et ils ont le droit, eux aussi, d'avoir leur part dans la poursuite de la transmission de ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ces raisons-là que je me suis engagé avec mes élèves dans des projets. Où la particularité de mes projets sont qu'ils sont sur le temps long, sur 2 ans, sur 3 ans parfois, puisqu'en bac pro on a les élèves sur plusieurs années, pour petit à petit construire avec eux un véritable savoir et qu'ils en deviennent finalement en quelque sorte experts de ce fait historique, hein, et qu'on ait le temps de le creuser avec eux.
Alors justement, les lieux ont leur importance. Vous allez avec vos élèves au mémorial de la Shoah, vous êtes allé aussi au mémorial de Drancy. Et moi-même, je m'y suis rendue cette semaine, Clément Bouchereau. Je m'y suis rendue avec Lucie Riandet, qui a réalisé ce reportage. Alors le mémorial de Drancy, il est seulement à 12 kilomètres de Paris. C'est devenu un lieu pédagogique également. Ça reste un lieu d'habitation, c'est-à-dire les lieux mêmes où on entassait les juifs et autres personnes en vue de la déportation sont des immeubles aujourd'hui dans lesquels des gens habitent. C'est extrêmement impressionnant. Et puis il y a une partie musée qui accueille donc des classes. Et ce jour-là, c'était une classe de troisième où plusieurs élèves comme Guillain, Antoine et Carlotta ont accepté de répondre avec leur enseignante et la guide du musée aux questions donc de Lucie Riandet.
Ça fait quelque chose de se dire qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont passées ici avant de se faire exterminer à Auschwitz.
Ça fait bizarre d'être sur un lieu où, il y a quelques années, 50 ans, des gens étaient déportés, vivaient dans des conditions abominables.
Bah, en fait, je ressens un angoisse parce qu'en fait, ça me fait bizarre d'être dans un endroit où je sais qu'il y a eu plein de morts. Et il y a eu plein d'enfants et plein de femmes et d'hommes qui ont été, qui ont vécu dans des conditions, abominables.
Alors aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a eu 76 000 déportés de la France et la majorité passait par Drancy, dont 67 000.
Alors, donc les élèves ont, dans un premier temps, travaillé sur les génocides en classe, sur la notion de génocide, qui est au programme de troisième. On a travaillé sur le génocide des Arméniens durant la Première Guerre mondiale, et on a prolongé et donc dégagé de ce travail la notion de génocide, montré que c'était une extermination volontaire, programmée, organisée, et qui visait effectivement des populations, soit pour des raisons religieuses ou raciales. Et donc les élèves ont dégagé cette notion, et l'objectif de l'année avec eux, c'est de travailler sur les différents génocides du XXe siècle, évidemment en restant dans la limite des programmes. Donc le génocide des Juifs, et en particulier des Juifs qui vivaient en France durant la Seconde Guerre mondiale, est abordé, et un point clé du programme de troisième. Et c'est à ça vraiment que je comptais préparer les élèves, c'est-à-dire d'être capable de décrypter quand une société commence à avoir des symptômes de quelque chose qui pourrait conduire à un génocide. Donc c'est vraiment l'objectif du programme de troisième, préparer les futurs citoyens, hein, avoir un esprit critique et être capable de décrypter. Quand Alain Resnais dit à la fin de son documentaire la mort est encore présente et il ne faut pas oublier, c'est vraiment l'objectif et c'est le lien entre le programme et ce qu'on nous propose ici, avec la double facette lieu de mémoire, en fait, où des gens ont vécu des choses, et l'aspect musée qui permet aussi d'offrir tout l'aspect pédagogique pour faire comprendre à des élèves de 3e.
On a appris beaucoup de choses parce que on avait appris en cours un peu sur la déportation des Juifs, mais là j'en ai appris encore plus. Et ça a ouvert les yeux, je pense, à pas mal d'élèves, dont moi.
Parce que tu n'étais pas forcément au courant de tout ce qui s'était passé?
J'étais au courant, mais sur les grandes lignes, je ne sais pas comment dire. Généralement, moi, pendant mes visites, la première chose que je fais, c'est vraiment de bien redéfinir les termes. Génocide, c'est généralement un terme, quand ils viennent, qu'ils connaissent, qu'ils ont vu en cours, donc ils connaissent la définition. Mais Shoah, des fois, ils comprennent pas que la Shoah, ça désigne le génocide des Juifs. Donc on définit ce mot, dans quelle langue ça vient, qu'est-ce que ça signifie littéralement, et puis on reprend qu'est-ce qu'un génocide, quelles sont les caractéristiques d'un génocide. En fait, ça permet vraiment d'avoir un terreau, une base pour construire la visite ensuite. On peut avoir tous les types de publics, mais il y a quelque chose effectivement qui les marque généralement beaucoup à Drancy, même si c'est des groupes parfois assez peu scolaires, qui ont assez peu d'attention, c'est qu'on a été sur un endroit où il s'est passé des choses. On est sur un endroit où il y a eu un vécu, où il y a eu des milliers de personnes qui ont été internées. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui habitait, qui est au cœur de la ville, et pour eux, c'est important de voir un endroit où les choses se sont passées. Ça rend l'histoire beaucoup plus concrète, et généralement, on a toujours une réaction de la part des élèves qui viennent.
Et c'est donc Alix Kéré, coordinatrice des activités pédagogiques au mémorial de la Shoah, donc à Drancy, que nous entendions en dernier lieu. De lieu, justement, il est question. Ce mémorial de Drancy, on l'a entendu, permet aux élèves une forme de prise de conscience, comme peut le permettre aussi la rencontre avec des témoins, mais c'est de moins en moins possible. Les lieux et le fait de se déplacer aussi, d'être ailleurs que dans sa classe. Qu'est-ce que cela produit pour vous? Peut-être on peut vous redonner la parole pour le camp des Mille, Alain Chouraqui.
Oui, alors dans le séquençage, je dirais, de l'accueil, il est clair que le contact, l'immersion dans des lieux authentiques où se sont vraiment passées les choses, ça vient d'être dit dans le reportage, c'est quelque chose qui contribue à ouvrir l'huître, pour reprendre l'expression d'animateur de la protection judiciaire de la jeunesse, parce qu'on a énormément de jeunes sous main de justice qui viennent nous voir. Je crois que cette première partie, encore une fois, d'immersion, où ils voient que les choses d'abord ont existé, tout simplement. Donc ça, déjà, pour certains d'entre eux, c'est un choc. Ils partaient plus ou moins de l'idée que c'était pas évident, que c'était, bon, ils voient une fenêtre où une maman s'est malheureusement jetée avec ses enfants pour éviter la déportation, etc. Donc cette immersion, encore une fois, est importante. Alors chez nous, dans le séquençage, ça précède la prise de recul intellectuelle, je dirais, plus éducative, plus pédagogique au sens plus froid du terme. Et c'est effectivement une préparation à ce recul intellectuel et citoyen.
Clément Bouchereau, sur cette question du lieu également, et le déplacement à la fois physique, mais ça sans doute, et surtout intellectuel, que cela peut produire chez les élèves.
Oui, moi je peux donner une petite anecdote. C'était à la fin de la visite du camp d'Auschwitz avec une classe. Ça faisait plus d'un an qu'on travaillait sur la Shoah avec les élèves. Et après la visite de Birkenau, c'est toujours un lieu étonnant pour les élèves, puisqu'il y a beaucoup de ruines. Il n'y a finalement pas grand-chose à voir. Et un élève me dit, ça y est, monsieur, j'ai compris. Et c'est quand même révélateur, hein, que pour l'élève, le déplacement, aller sur les lieux, c'est ça qui va les aider à comprendre et du coup aussi aider à penser, je pense. À réellement construire leur pensée sur la Shoah.
Norbert Tcherny, on voit aussi qu'il est extrêmement important pour les enseignants de bien préparer ces visites. On sait que Auschwitz, c'est un lieu qui aujourd'hui se prête à des visites extrêmement courtes, des visites avec selfie, alors de la part d'adolescents, mais pas seulement. Comment faire en sorte que ces visites soient respectueuses, soient l'occasion de réfléchir vraiment?
Alors, il m'est difficile de vous répondre pour Auschwitz, parce que j'y suis allé en 1980 dans des conditions que j'ai envie de qualifier d'exceptionnelles, parce que c'était un petit peu en déshérence, l'endroit était en déshérence et il n'y avait pas encore la dimension, hélas, touristique. Donc j'aurais du mal à vous répondre là-dessus, j'ai plutôt envie de passer un coup de chapeau et de dire toute mon admiration pour les professeurs avec qui je travaille. C'est-à-dire que les gens que je rencontre au mémorial de la Shoah, comme mon voisin, que je n'ai pas encore rencontré au mémorial, mais je vois exactement le type de travail qu'il fait, sont des gens qui ont très bien préparé leurs élèves et qui surtout leur ont donné une idée de ce que c'est que le respect des lieux dans lesquels on se trouve et des situations dans lesquelles on se trouve. Et je n'ai eu qu'à me féliciter de cela. Alors, du travail des professeurs, de la préparation qu'ils effectuent, c'est vraiment formidable. Au mémorial de la Shoah, il y a un endroit qui frappe. C'est le mur des noms. Alors en ce moment, il est en réfection, il est en train d'être complètement réparé, si je puis dire, puisqu'il y avait un certain nombre de noms qui étaient effacés ou qui étaient mal orthographiés, corrigés, rectifiés, et il est en train d'être refait. Et c'est un endroit qui suscite immédiatement de la part des élèves une forme d'attention, de respect. Ce qui m'a personnellement beaucoup touché, c'est que j'y suis allé quand j'étais professeur de collège avec mes élèves, et avec mes collègues d'histoire que je tiens à saluer à l'occasion. Et il y avait des élèves qui me disaient « Ah oui, bah là, il y a ma grand-mère. » Et je m'y attendais absolument pas. C'était très, très étonnant. Donc, il y avait une forme c'était comme s'ils arrivaient au cimetière, ce qui est un petit peu le mur des noms au mémorial. Donc, je crois que s'il y a un endroit qui est très, très frappant dans le mémorial de la Shoah, à Paris, c'est bien ce mur des noms. Il y en a un autre sur lequel j'insiste beaucoup, parce qu'il se voit moins, c'est le mur des justes qui est à l'extérieur, parce qu'il permet de rétablir aussi certaines inexactitudes. Il se trouve des gens en France pour dire que les Français ont été tous antisémites, etc. Il y a des gens assez, assez bêtes pour dire des choses pareilles. Et moi j'insiste sur ce mur des justes, ne serait-ce que parce que je connais un nom.
Alors Primo Levi, je voulais qu'on entende sa voix. Il s'était fixé la mission de raconter, le métier de raconter, c'est le nom d'un documentaire. On peut le revoir si on parle italien sur la RAI. On peut aussi écouter des archives, comme on l'a fait avec Philippe Baudouin. Celle-ci est extraite d'une émission de 1997, une émission littéraire à la télévision, il n'y en a plus beaucoup. Et puis l'extrait de la RAI, lui, date de 1974.
Si vedeva arrivare il convoglio di gente nuova e dopo pochi giorni la scelta spontanea era avvenuta, cioè come un setaccio. C'erano quelli che restavano sopra e quelli che passavano sotto.
Nous les survivants ne sommes pas les vrais témoins. C'est la notion qui dérange dont j'ai conscience peu à peu. Nous sommes une minorité non seulement exiguë mais anormale. Nous sommes ceux qui, grâce à l'habileté ou la chance, n'ont pas touché le fond. Ceux qui l'ont fait ne sont pas revenus pour raconter ou sont revenus muets. Eux sont la règle, nous l'exception. Nous autres, favorisés par le sort, nous avons essayé de raconter non seulement notre destin, mais aussi celui des autres. C'est le récit de choses vues de près, mais non vécues, à notre propre compte. La destruction menée à son terme, l'œuvre accomplie, personne ne l'a racontée. Comme personne n'est jamais revenu pour raconter sa propre mort. Nous, nous parlons à leur place, par délégation.
Nous parlons par délégation. Beaucoup d'anciens déportés l'ont dit. On ne peut pas parler à la place de ceux qui sont morts, de ceux qui ont péri dans les camps de concentration. Et pourtant, il faut le faire. Il faut se donner le métier de raconter. Et il y a une anecdote qui a retenu mon attention. Elle a été racontée par Matteo Caranta sur France Culture. C'était dans les matins du samedi de la semaine passée. Il parlait d'une sénatrice italienne qui s'appelle Liliana Segre. Pardonnez-moi pour mon accent. C'est une personnalité extrêmement célèbre libre en Italie et elle a proposé qu'une loi soit votée pour que des paroles racistes ou antisémites ne puissent plus être diffusées telles quelles dans les médias. Alors en Italie, c'est pas comme en France, hein, il n'y a pas la loi Gayssot. Et finalement, ça n'a pas été possible parce que des députés de droite, des députés de Forza Italia, des députés du parti néofasciste, des partis de la Ligue de Matteo Salvini s'y sont opposés. Aujourd'hui, c'est Liliana Segre qui est menacée elle-même. Elle bénéficie d'une protection policière à vie. C'est une ancienne déportée. C'est une personne aussi qui a fait apposer une plaque dans la gare de Milan, en Italie. C'est la gare de Milan où on partait pour Auschwitz. Je suis un peu émue en le disant, excusez-moi. Et sur cette plaque, il y a écrit « Indifferenza », indifférence. Alors, je crois que ça nous ramène à aujourd'hui, à ce qui peut être dit aujourd'hui, à la manière dont le combat peut aussi se mener aujourd'hui et maintenant, et pas seulement pour la mémoire, mais aussi pour le présent. Et je crois que vous nous avez déjà un petit peu expliqué, mais expliquez-nous-le encore, Alain Chouraki. C'est ce que vous faites un peu au camp des Mille. C'est quoi comment vous le faites? Qu'est-ce que vous dites à des jeunes gens, à des adolescents scolaires et non scolaires? C'est quoi? C'est exercer leur esprit critique? C'est essayer de comprendre ce qui va dans le sens de la liberté ou non? C'est les alerter?
Oui, c'est vrai que c'est dans l'ADN du camp des Mille. La fondation du camp des Mille s'appelle Fondation du camp des Mille, mémoire et éducation. Et dans éducation, il faut entendre avant tout éducation à la citoyenneté. Et éducation à la citoyenneté, bien sûr, chaque fois que l'on parle de l'histoire, c'est une manière, et d'ailleurs d'une façon générale, dès qu'il y a culture, c'est une manière d'éduquer. Mais ce que nous avons souhaité, c'est vraiment construire de façon pluridisciplinaire le lien entre le passé, et notamment le passé des grandes tragédies historiques, et tout particulièrement bien sûr la Shoah, puisque c'est un lieu Shoah, le lien entre ce passé et le présent. Alors, faire ce lien, ça n'est pas seulement parler d'actualité. Je dirais pour nous-mêmes, ce n'est pas parler d'actualité. C'est essayer de trouver les mécanismes fondamentaux qui, en quelques étapes, du fait d'un engrenage toujours résistible, mais d'un engrenage auquel on n'a pas toujours résisté, comment cet engrenage peut conduire des extrémismes identitaires, ce sont des mots clés chez nous, des extrémismes identitaires à aller jusqu'au crime de masse, en passant par l'autoritarisme, la dictature, etc. Et cela, on l'a décanté, je dirais, en plusieurs outils que nous déclinons, qui vont depuis des films pédagogiques qui sont présentés aux jeunes. Il n'y a quasiment pas de visite de jeunes chez nous sans qu'il y ait atelier d'approfondissement. Et ces ateliers ont toujours une double finalité. S'approprier les leçons de l'histoire au sens strict. Et leçons de l'histoire, ce n'est pas seulement plus jamais ça. C'est comment faire pour que plus jamais ça. Et comment faire pour que plus jamais ça, c'est avant tout connaître ce séquençage, ces différentes étapes qui conduisent au pire, pour prendre un exemple très précis. Lorsque l'on regarde, en l'occurrence, la deuxième étape sur trois qui peut mener à un crime de masse, on a comme caractéristique, à partir de l'histoire, perte de repères, rejet des élites, institutions attaquées et ébranlées, agression raciste ou antisémite, pouvoirs impuissants. Bon, ça vous rappelle quelque chose. Or, c'est l'histoire qui s'est produite de cette manière dans les différents génocides que nous étudions. Et ces différents génocides ont pour but de, quelque part, valider, universaliser le propos de qu'on peut tirer à partir de la Shoah. Ces clés de lecture tirées du passé s'appliquent directement au présent. Pas besoin d'actualité. On a là une sorte de matrice d'explication des comportements humains, de même qu'on a une matrice sur les résistances possibles. Vous avez évoqué tout à l'heure le mur des actes justes, qui est un endroit formidable au mémorial de la Shoah. Nous avons aussi une allée des justes, où les justes sont présentés, et ce sont des symboles de résistance, mais nous avons souhaité terminer notre visite par un mur des actes justes. Un mur des actes justes parce que nous souhaitons montrer à chacun, c'est d'ailleurs l'intitulé du mur, que chacun peut résister, chacun peut réagir, chacun à sa manière. Et montrer dans les différents génocides comment il suffit par exemple qu'un policier détourne le regard quand un gamin s'échappe pour qu'il sauve une vie sans qu'il soit pour autant ce policier injuste ou un héros. Et cela rapproche pédagogiquement plus du visiteur qui, s'il n'est pas fou, ne se prend pas automatiquement pour injuste, et du jeune visiteur en particulier, qui sent que la réaction, la résistance est à sa portée.
Clément Bouchereau, sur cette question à la fois des actes concrets, du lien qu'on peut faire, non pas forcément avec le présent, mais plutôt avec les manières, la manière dont l'histoire des génocides, peut se faire. Est-ce que ça fonctionne avec vos élèves dont vous écrivez aussi, puisque vous avez publié un article sur la question, qu'ils sont de toutes origines et pas forcément très familiers de l'histoire de la Shoah, parce que ou pas forcément très d'ailleurs touchés par cette histoire, parce qu'on en a pas parlé, parce que ils ont des doutes, parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans ce sens peut-être.
Oui, en effet. L'angle que j'ai choisi et qui est proposé par les formateurs du Mémorial de la Shoah aux enseignants, c'est de notamment ne pas enseigner que la Shoah en tant que telle, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant la guerre, mais aussi avant, c'est-à-dire dans les années 30 et la montée du nazisme notamment. Hein, et que les élèves comprennent que les nazis, c'était pas des brutes sanguinaires qui ne pensaient à rien, mais plutôt que le nazisme fonctionnait sur un système de pensée. Et travailler avec les élèves sur la pensée nazie, sur quelle est la place finalement dans cette pensée nazie de la haine des juifs, hein, qui est centrale, passer par ce détour-là, par les élèves, en fait, ça les aide énormément. Et en fait, ce que j'ai constaté à chaque fois en faisant ces projets, c'est que la question qui vient de la part de mes élèves, c'est « Mais finalement, monsieur, c'est quoi un juif ? On ne le sait pas. » Et donc, j'ai déjà été à des ateliers au Mémorial de la Shoah sur la question, hein, qui d'ailleurs se nomme « Qu'est-ce qu'être un juif ? C'est quoi un juif ?» Puisque c'est souvent une question que posent les élèves. Et là, en janvier, avec une classe, on part à l'Institut du Monde Arabe et au Musée d'Histoire d'Art et d'Histoire du Judaïsme pour mener une journée qui s'appelle Culture en Partage, où on va découvrir les points communs entre la culture musulmane et la culture juive.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Et à mes invités qui me demandent « Mais pourquoi cette musique ?», je réponds « C'est Noah qui chantait sur la musique du film « La vie est belle » de Roberto Benigni. Et ne parlez pas en même temps que moi, s'il vous plaît, Alain Chouraki. Donc, un film qui parlait de la déportation des Juifs en Italie, évidemment. Il faut revenir sur un événement qui s'est déroulé très récemment, donc c'était le 9 novembre, une manifestation contre le racisme, contre les actes anti-musulmans ou le fait que des paroles anti-musulmanes soient prononcées sur des chaînes de télévision ou de radio. Et donc, une manifestation à Paris où on a pu voir arborer par certains manifestants, c'était une manifestation qui réunissait des gens très divers, des étoiles. Alors, à cinq branches, mais qui ont rappelé à certains observateurs l'étoile jaune arborée par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on pense quand on est comme vous, Alain Chouraki, président de la Fondation du Camp des Milles, du fait que des manifestants, aient arboré ce signe?
Alors, vous savez bien que cela a provoqué des polémiques. Lorsque l'on souhaite faire des parallèles entre le passé et le présent, on doit être extrêmement prudent. On touche de la matière très sensible. Et il me semble que la montée de la stigmatisation en Europe contre les musulmans est suffisamment grave en elle-même pour que l'on ne soit pas conduit à ce genre de ce que moi j'appellerais de dérapage, parce que, encore une fois, on n'est pas, heureusement et évidemment, aujourd'hui, dans une situation avec les musulmans semblable au port de l'étoile jaune pendant la guerre. Donc, soyons mesurés, nous n'en serons que plus efficaces. Défendre aujourd'hui les musulmans qui sont, encore une fois, discriminés, c'est essentiel. N'allons pas trop loin, n'appelons pas tout génocide. C'est un point aussi très important.
Alors, le mot n'a pas été employé pendant
bien
la
sûr,
manifestation.
Bien sûr, mais j'élargis parce qu'on a tendance aujourd'hui à parler de génocide à propos de n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi. De crimes, certes, mais qui ne sont pas nécessairement des génocides. Tous ces crimes sont condamnables. Gardons de la mesure. Nous aurons d'autres combats face à des événements peut-être plus graves, y compris, en l'occurrence, peut-être contre des musulmans. Et je pense que il faut à la fois protester et raison garder.
Norbert Tcharny, on a dit en début d'émission que vous veniez de quitter l'enseignement. On peut en déduire que vous avez beaucoup d'années d'expérience. Qu'avez-vous pensé de l'évolution de l'enseignement et de la transmission de la mémoire du génocide juif, de la Shoah, dans l'éducation nationale, à travers à la fois les programmes et puis la manière dont les enseignants ont pu s'en emparer?
Mais j'ai presque envie de laisser d'abord la parole à mon voisin parce qu'il en est la meilleure incarnation. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, j'adhère. Clément Bouchereau, j'adhère complètement. C'est-à-dire que on acquiert des connaissances, un savoir au mémorial de la Shoah dans d'autres circonstances. Et on le transmet à ses élèves pour qu'ils en soient eux-mêmes porteurs. Et ça, je crois que c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Je rejoins aussi ce qu'a dit Alain Chouraki il y a un instant sur la méthode, sur la démarche et sur le fait de bien montrer quels sont les signes qui nous mènent à ce genre de situation. C'est-à-dire, par exemple, la fragilité du pouvoir, le fait que la parole semble se désagréger ou devenir un peu n'importe quoi. J'avais envie de rajouter quelque chose à propos des lieux, enfin, c'est pas des lieux en soi, mais l'école, comme le camp des Milles, comme les lieux de mémoire, sont des lieux fondamentaux pour, justement, garder à cet événement et aux autres événements, parce que je pense beaucoup à ce qui s'est passé pour au Rwanda, par exemple, mais pas seulement.
Dont on parle actuellement mémorial de Drancy. Hein,
tout à fait, et à Paris aussi. Ce sont des lieux dans lesquels on emploie les mots justes, et c'est toujours la même question. C'est une question de mots justes. Tout à l'heure, Alain Chouraki faisait allusion à l'emploi du mot génocide. Je me souviens que j'avais été vraiment plus que choqué quand les défenseurs des animaux avaient parlé d'Holocauste. Parce que cette confusion de mots, c'est le pire péril qu'on puisse connaître. Il y avait eu un texte il y a très longtemps de Heinrich Böll qui s'appelait « Les mots peuvent tuer ». Et là, en l'occurrence, ils peuvent tuer, ils peuvent banaliser, ils peuvent relativiser, et c'est la pire chose qui puisse arriver. Je veux dire que j'aime beaucoup les animaux, je tiens à leur préservation, je tiens à leur vie, etc. Mais je pense que c'est très 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 important de savoir quels mots on emploie pour quelle chose. Donc, qu'on tue des animaux, que ça soit ignoble, certes, mais c'est pas un génocide, ou ça n'est pas un holocauste. Donc, ou alors, au sens très ancien du mot, sacrifice d'animaux, oui, d'accord. Mais j'ai pas tout à fait répondu à votre question. Je dirais que, si, quand même, l'éducation, l'école reste l'un des lieux fondamentaux pour faire penser, pour faire comprendre, pour faire sentir, pour faire penser. Et je pense qu'elle s'efforce de jouer au mieux son rôle.
Clément Bouchereau, on a parlé de penser, on peut parler aussi de formaliser cette pensée. Qu'est-ce que vous leur demandez à vos élèves? Est-ce que vous leur demandez, par exemple, d'écrire?
Alors oui, moi, comme je l'ai dit en début d'émission, je suis professeur de lettres et d'histoire. J'essaye de jouer sur les deux tableaux, tout en amenant bien mes élèves à saisir les différences. Et donc, en histoire, je les amène à faire un travail d'historien, c'est-à-dire on travaille à base d'archives. En ce moment, mes élèves travaillent sur la vie d'une famille, la famille Adonner, qui est morte à Auschwitz. Mais ce sont des pièces d'archives du mémorial de la Shoah, et donc ils en écriront une vie en 2 ou 3 pages, hein, mais c'est un travail d'historien. Et en lettres, on s'adonne à un autre type de travail. L'exemple qui me vient en tête, hein, c'était il y a 3 ans, j'ai travaillé avec Gérard Noiret, un poète, sur. On a écrit des poèmes sur la rafle du Veldiv. Des poèmes qui s'intitulaient Ce jour-là, qu'auriez-vous dit? Et les élèves s'étaient questionnés ce jour-là, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Cette posture de création d'élèves, elle est essentielle. Et cette année, on a décidé de l'élargir encore avec la collègue d'EPS, puisque les élèves vont danser. Ils vont choisir des mots. On en revient encore une fois aux mots. Ils vont choisir des mots, par exemple le mot haine, et ils vont se demander comment le mettre encore ensemble. Et là, c'est tout leur être qui va être questionné sur cette question de la Shoah. Et moi, je trouve ça assez captivant quand on est enseignant de pouvoir vivre ça avec ses élèves.
La danse étant une occasion de se mobiliser totalement. On a déjà parlé de la danse dans cette émission. Alain Chouraqui, je crois savoir que la création, c'est aussi un volet du travail, je ne sais pas si on peut parler de travail, en revanche, que peuvent accomplir les jeunes gens, les adolescents qui viennent au camp des Milles.
Oui, d'abord, juste un mot pour prolonger ce qui vient d'être dit. Nous évoquons beaucoup au camp des Milles le fait que, je cite, quand les mots deviennent fous, les hommes deviennent fous. Donc il ne faut pas que les mots deviennent fous. Pour la question de la création, nous avons la chance, dans l'histoire du camp des Milles, d'avoir eu comme internés des artistes et des intellectuels, une grande partie, certains disent plus d'un tiers, de l'intelligentsia d'Europe centrale, d'Allemagne, d'Autriche, qui s'étaient réfugiés en France avant la guerre, croyant y trouver une vraie protection, et qui se sont retrouvés en définitive internés au camp des Milles. Du coup, il y a eu sur place une activité intellectuelle et artistique extrêmement vive, extrêmement forte. Il y a de nombreux exemples sur les murs, il y a des grandes peintures murales, toujours avec une ironie qui est, on le sait, la politesse du désespoir, mais qui manifestait surtout, de notre point de vue, une résistance par l'art, une résistance par la création, une résistance par l'intelligence. C'était leur manière de rester homme face à une volonté de déshumanisation dès le départ, car un des aspects importants du camp des Milles, c'est que c'est l'autre bout du chemin d'Auschwitz. Au bout, il y a Auschwitz, mais au début, il y a le camp des Milles, avec des cigales autour, avec des boulistes toujours les mêmes. Des choses dont on sent bien la proximité avec la vie quotidienne, la vie normale. C'est dans cet ordinaire-là que s'enclenche l'extraordinaire qui mène au pire, et y compris, encore une fois, dans l'ordinaire de la vie artistique qu'ils ont voulu prolonger jusqu'à ce qu'ils basculent dans l'extraordinaire. Il y avait notamment de grands écrivains, je pense à Léon Feuchtwanger et à son Diable en France, qui s'oppose bien sûr à l'expression « heureux comme Dieu en France » et qui a été interné, qui a décrit son histoire au camp des Milles.
Norbert Tcharny, vous qui écrivez également cette dimension créative pour répondre aussi à des connaissances qui sont peut-être un peu difficiles aussi à intégrer, non pas parce qu'elles sont complexes, trop complexes pour des adolescents, parce qu'on peut tout expliquer, mais parce que ce sont des réalités tellement terribles. En quoi pour vous le fait d'écrire ou de créer peut répondre à un besoin des enfants et adolescents, des élèves?
Je pense que C'est un petit peu comme ce que j'ai dit de l'école, c'est-à-dire que ce que je recherche avant tout, ou ce que je souhaite, c'est des moments de silence, et des moments de... il faut qu'on prenne son temps. Et écrire, c'est obligatoirement prendre son temps. Donc le travail que je demande aux élèves que je rencontre au Mémorial de la Shoah, dans l'atelier que j'anime, c'est un travail d'écriture à partir de contraintes très simples en général. Je vais vous en donner un exemple. Il y a un certain nombre d'interdictions qui ont été faites à partir de 1942. Ces interdictions, c'était interdiction d'aller au théâtre, au cinéma, au musée, à la piscine, sur une plage, entrer dans une cabine téléphonique, dans un jardin public, etc. Ces interdictions, quand je les donne aux élèves, sont des interdictions qui sont des ordonnances allemandes, en fait. Mais bon, le régime de Vichy a acquiescé. Donc ces ordonnances, elles sidèrent les élèves. C'est-à-dire que pour eux, entrer dans un parc, c'est une évidence. Donc ce que je leur demande, c'est d'écrire un texte à partir d'une jeune fille qui pourrait être une comme Dora Bruder. Parfois, je leur donne des noms, parfois, je leur donne des photos, un petit peu comme Clément Bouchereau. Et à partir de là, je leur demande d'écrire un texte sur le principe de l'anaphore. Vous savez, il y a, il y a, il y a, ou une formule qui se répète en tête de phrase ou en tête de vers, appelons ça comme on veut. Et je leur demande d'écrire ça, d'écrire cette impossibilité de vivre. Et ils s'en rendent compte, ils le ressentent. Quand je dis qu'ils s'en rendent compte, et ils se disent, mais c'est pas possible de ne pas entrer dans une salle de cinéma. Si, c'était possible, avec une étoile jaune, on ne pouvait pas entrer. Et il y a un texte que j'aime beaucoup dans le journal d'Hélène Baird. Alors moi, je me suis occupé de l'édition scolaire du journal d'Hélène Baird qui est publié au Seuil. Donc c'était parti de chez Taillandier, mais c'est l'édition scolaire. Il y a ce texte sur ce passage du journal dans lequel elle raconte le premier jour du port de l'étoile jaune, le 8 juin 1942. Et elle raconte comment elle a dû affronter le regard des passants, des promeneurs dans Paris. Et en général, ce sont des regards bienveillants, généreux, attentifs. Et elle raconte comment elle a affronté tout ça. Et ça aussi, ça fait partie des textes que je donne, ou des choses que je montre au Mémorial. C'est-à-dire, vous voyez, avec une simple étoile, vous rendez quelqu'un de complètement différent.
Merci, merci beaucoup à tous les trois. On peut se rendre au Camp des Milles, on peut se rendre au Mémorial de la Shoah à Paris et à Drancy. On peut aussi lire, évidemment, Primo Levi. On vous le conseille plus que chaudement. Alors, pour les enfants peut-être un peu plus jeunes, je me permets de parler d'un beau livre qui vient de paraître chez Talendier. Nous, les enfants de la guerre 39-45, il est signé Bénédicte Vergé-Chaignon et Dominique Missica. Il y a beaucoup de photos, il est question de la guerre et de la déportation des Juifs. On peut conseiller un film qui est très pédagogique, Les héritiers de Marie Castille, Mention Char, qui était sorti il y a quelques années. C'est un très très beau documentaire, Les enfants du 209 rue Saint-Maur de Ruth Zilberman. On peut le trouver sur Internet et l'acheter. Merci encore à tous les trois. Et tout de suite, la dernière rubrique de l'émission, La leçon de choses de Sophie Bobert. La leçon de choses de Sophie Bobert avec Philippe Tretiak qui a beaucoup parlé de sa mère à Sophie et puis de toute sa famille.
Mon grand-père, qui était un sculpteur russe, grand-père paternel, avait ouvert, je ne sais même pas en quelle année, après-guerre, après la première guerre bien sûr, avait ouvert un magasin qu'il a appelé Fémina. Et ce magasin Fémina, je l'ai toujours connu comme une espèce de lieu quasi abandonné, une espèce de... Et je n'imagine même pas d'ailleurs qu'il ait réussi à vendre quoi que ce soit dans ce magasin. Et il s'est trouvé que quand mon frère et moi-même nous sommes devenus assez grands pour nous nourrir tout seuls, disons, dans les années 65, par là 70, ma mère a décidé de reprendre un emploi. Mon père lui travaillait dans la pub. Et elle a décidé de reprendre la boutique de son beau-père. Elle l'a appelé, avec une invention, une recherche extraordinaire, elle l'a appelé de son prénom, Pauline. Et elle a tenu pendant une quinzaine d'années ce magasin qu'elle a détesté. Voilà. C'est une histoire extraordinaire. C'est que ma mère avait ce qu'on appelle la main. Elle achetait tous les jours des antiquités et les antiquaires la suivaient parce qu'elle savait qu'elle avait un sens extraordinaire de la brocante, disons. Donc elle a transformé peu à peu le magasin en magasin d'antiquités, mais elle y vendait encore des vêtements. Et quand des femmes rentraient pour acheter des vêtements, elle les jetait dehors. Donc c'est devenu un cas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est au moment où, en écrivant l'histoire d'Arnis, que j'ai d'un seul coup perçu qu'il fallait que peut-être que si je mettais ça en miroir avec l'histoire de ma propre famille, disons, avec face au succès des Grimbert, patrons d'Arnis, j'allais mettre en regard l'échec de la boutique de ma mère, là, le livre prenait un sens, et même, c'est d'ailleurs pour ça, je pense que les gens sont émus en le lisant, parce qu'ils apprennent, mais il y a quelque chose d'assez bouleversant dans cette histoire. C'est pas une histoire misérable, c'est plus une histoire absurde. Moi, ce qui m'a toujours plu, c'est l'absurde.
Et parallèlement à cela, c'est aussi l'histoire de votre mère, qui, elle, n'est pas très heureuse dans ce magasin. Je reprends vos termes, vous écrivez « Ce fut pour elle une cause de frustration permanente, elle crépitait d'indignation, parce qu'elle n'a pas pu faire d'études, parce qu'elle aurait sans doute préféré être antiquaire. Oui. » Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce sentiment d'indignation et de frustration lorsqu'on est l'enfant de Pauline, lorsqu'on est le fils et qu'on voit sa mère comme ça se débattre avec ses sentiments paradoxaux?
Je dirais qu'elle me l'a transmis. Moi, on me dit souvent que j'ai dû tomber dans une bassine de cocaïne à ma naissance, comme les Obélix. Non, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je suis aussi, je crépite. Donc, je suis toujours, moi, ce que j'aime, c'est la transe. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et elle avait quelque chose de comme ça. Je le dis, c'est vrai. Ça a été pour moi une divine surprise que dans l'écriture d'Arnis ressurgisse l'image de ma mère, quoi. C'était vraiment quelque chose de très émouvant pour moi, qui m'a même dépassé, d'ailleurs, je dois dire.
Mais lorsque vous étiez enfant ou jeune, qu'est-ce que vous en faisiez de cette indignation-là, de cette amertume-là que ressentait votre mère? Comment est-ce qu'on s'en sort de ça?
Mais quand on est enfant, on perçoit pas forcément les choses comme ça. Je pensais parfois que ma mère était dingue, que heureusement que mon père était là parce qu'il la calmait.
Dites-vous, cette foutue boutique me foutait le cafard.
Oui, bien sûr. Mais c'est une époque aussi où on se disait que travailler 8 heures par jour, ça nous foutait le cafard. Hein, à l'époque, on craignait pas le chômage. Donc, c'était une autre époque. On se disait, on n'avait pas envie de bosser toute sa vie dans un bureau. Je pense que ma mère était enfermée dans cet endroit-là. Elle avait envie de faire autre chose, quoi. C'est sûr.
Et parlait-on du succès lorsque vous étiez enfant, Philippe Trétiac, était-ce important de réussir ou finalement pas tellement, puisque le ratage était quelque part inscrit dans l'histoire familiale?
Ah non, je dirais pas du tout que le ratage était dans l'histoire familiale. Non, ma mère, elle lisait un livre par jour. Non, c'était, moi, j'étais chez des gens.
Il y a un ratage de vocation chez votre mère. Hein.
D'accord. Mais je veux dire, il y avait quand même dans ma famille une très haute idée de la culture. Et je rappelle quand même, ma grand-mère maternelle était analphabète. Elle ne savait pas lire. Moi, j'ai connu ma grand-mère qui ne savait pas lire. On avait essayé de lui apprendre à lire. Elle n'avait pas appris parce qu'elle avait perdu une de ses filles et que ça avait détruit. Son mari avait été déporté, etc. Donc j'ai vécu là-dedans. Mais nous, on était, la culture, c'était un truc. Quand on parle du succès, c'est la société laïque républicaine. Nous, on en est vraiment des exemples, mon frère, mon cousin, etc., absolus, de cette réussite-là. Donc ça, c'est incontestable. Et il y avait pas du tout... je dirais pas qu'il y avait un sens... Alors, que ma mère ait pas réussi à faire ce qu'elle voulait, ça, c'est incontestable. Mais elle avait peur de se lancer, elle avait pas la fibre de l'initiative privée. Et il y avait pas du tout la pression, l'angoisse. On savait qu'on réussirait, qu'on s'en sortirait, quoi. On n'était pas inquiet. Pour nous, l'inquiétude, c'était ce qui était passé avant. Non, encore une fois, je vous dis, moi, mon regret, c'est de ne pas avoir conservé tous mes vêtements. J'en ai porté des très moches. Et ça se trouve, aujourd'hui, ils seraient très à la mode. Et je le regrette parce que je pense que ça, on pourrait faire la biographie de quelqu'un uniquement par ses vêtements et ce serait formidable. Et voilà, ça, c'est mon regret.
Et le livre de Philippe Trétiac, Arnis et moi, est sorti aux éditions Plein Jour. Et puisque tout à l'heure, je donnais quelques conseils de lecture donc destinés aux enfants sur la mémoire de la Shoah, qui était notre sujet aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de ce livre, Questions d'enfants sur la Shoah, de Eddy Fried, chez Flammarion. C'est extrêmement bien raconté, très clair et très pédagogique. Et on se retrouve la semaine prochaine à 17h sur France Culture.